Il y a des conversations qui vous émeuvent, qui vous touchent plus que d'autres. Et c'est sans doute le cas de celle que j'ai eue aujourd'hui avec Annick de Souzenel. Annick, c'est une anthropologue spirituelle qui a écrit un peu plus d'une vingtaine de livres, dont Le féminin de l'être en 2000, mais aussi Le grand retournement. Elle s'est intéressée à toutes les religions, mais sans dogme, sans obligation. Et avec elle, on va parler du sacre du féminin, des religions, de liberté, de libre arbitre, mais aussi de courage. C'est une conversation pleine de spiritualité, mais extrêmement ancrée, qui, moi, m'a énormément touché, et j'espère qu'elle vous touchera aussi. Je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour, Annick.
Bonjour.
Grégory.
J'ai du mal à retenir.
C'est pas bien grave. Je suis ravi d'être là avec vous. Vous avez écrit récemment un livre qui s'appelle « Le grand retournement ». Je pense que en ce moment, les personnes qui nous écoutent savent que elles sont un peu perdues. On est dans une sorte de crispation, donc il y a beaucoup de peur qui remonte. Pour vous, c'est l'expression de quoi ce grand retournement? Qu'est-ce qu'on est en train de traverser?
Vous savez, je n'ai pas inventé le mot. En vérité, je suis une amoureuse des textes bibliques. Mais ma connaissance de l'hébreu m'a permis de découvrir une traduction bien souvent très infantile d'eux. Ou bien une traduction juste, mais insuffisante, et qui ne pouvait pas être comprise au temps où on lisait les textes autrefois. Alors qu'aujourd'hui, où les événements se précipitent, tout à coup ces textes-là se révèlent à nous. Il y a une sorte de levée de voile, si vous voulez, qui est quelque chose de tout à fait émouvant aujourd'hui, sur beaucoup de choses, et en particulier sur ces textes bibliques. Donc mon travail m'a permis de les traduire un petit peu autrement, et c'est là où j'ai vu que nous vivions à l'heure actuelle quelque chose que l'on peut appeler en effet un grand retournement. Vous savez, je suis une mère de famille, j'ai attendu un bébé, des bébés même, et je sais comme toute femme que pendant les 6 premiers mois de la grossesse, l'enfant se développe sur le plan anatomique et physiologique. À la fin du 6e mois, il est achevé. Et à partir du 7e mois, il y a un retournement dans le ventre de la mère et il vit 3 autres mois dont on ne sait pas très bien pourquoi. Et moi, j'avais l'intuition depuis longtemps que ces 3 derniers mois, pendant ces 3 derniers mois, l'enfant recevait une information d'un ordre totalement différent concernant son être, un être beaucoup plus profond, beaucoup plus subtil, qui lui permettait, au bout des 9 mois, de pouvoir venir au monde avec non seulement la possibilité de développer tout son être animal, mais aussi un jour de développer son être divin. Car je crois que les 3 derniers mois de gestation ont concerné pour l'enfant à recevoir une information d'ordre divin, de cet ordre qu'il est appelé à devenir lui-même. Et tout à coup, quand nous avons été pris, même avant le Covid, où j'ai vu ce qui se jouait dans le monde, j'ai vu l'humanité comme étant un grand fœtus dans le ventre cosmique, vivant des mois de gestation. Et dans la Bible, tout me dit que nous avons vécu le 6e mois de gestation au moment de la naissance du Christ. Marie a reçu la visite de l'ange au 6e mois de l'année. Elle est allée voir sa cousine Élisabeth, qui était enceinte de 6 mois. Enfin, si nous ne comprenons pas qu'il s'agit du 6, on ne comprend pas grand-chose. J'ai aussi, en m'appuyant sur d'autres textes, vu que ces mois de gestation correspondaient à 2100 ans de la vie historique, et nous sommes 2100 ans plus tard, et nous entrons dans le 7e mois de gestation. Et dans ce 7e mois de gestation, il y a un retournement total qui se joue, dans le monde et qui correspond à ce retournement du 7e mois de gestation dans le ventre d'une maman. Parce que nous allons commencer de vivre une information qui ne concerne plus notre anatomie physiologique. L'homme est devenu un homme, il est sorti de l'animal, ça y est, c'est fait, il est bon, mais il reste un animal dans sa façon d'agir. Et aujourd'hui, c'est au contraire une information d'ordre divin qu'il reçoit et qui va faire de lui un homme totalement autre. Quand je dis homme et femme, bien sûr, totalement autre. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que j'ajoute exprès le mot femme, parce qu'il y a aussi une redécouverte de la femme. Étant donné que la Bible, les traducteurs de la Bible, ont totalement confondu la femme que je suis avec le féminin des profondeurs, qui est l'inconscient. Quand il nous est dit d'épouser, dans le début de la Genèse, que l'homme a épousé son Isha, ce n'est pas l'homme a épousé la femme, parce qu'il n'est pas encore d'ordre animal, ou il est sorti de l'ordre animal. C'est tout être humain qui est appelé à épouser son inconscient, à pénétrer son inconscient et à réaliser les énergies potentielles qui sont là et qui sont d'une richesse incroyable. Mais quand l'homme ne sait pas que ce féminin est là, qu'il ne sait pas qu'il a cette richesse potentielle, eh bien c'est la richesse potentielle en question qui agit à sa place. C'est-à-dire que c'est l'inconscient qui agit à sa place. Et aujourd'hui, la plupart des êtres humains vivent uniquement en fonction de leur inconscient. Alors il y a un progrès qui a été fait depuis un siècle environ, un peu plus d'un siècle, où l'on a commencé de découvrir l'inconscient, mais seulement un siècle, ce n'est pas très très long, où l'on travaille sur ce sujet. Mais dans la mesure où le monde divin a été identifié aux églises, on est resté dans quelque chose de moraliste et d'insupportable. Alors qu'aujourd'hui, où les églises s'effondrent heureusement un petit peu, et je dis heureusement, attention, je suis très respectueuse de l'église telle qu'elle devrait être, mais ce qu'en ont fait les hommes est tout à fait bien souvent navrant, et justement, en avoir fait un code moral est une catastrophe. Alors que l'Église aurait dû apprendre justement à cet Adam que nous sommes tous, aussi bien homme que femme, à épouser son féminin intérieur. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
Totalement clair.
Mais ça me semble d'une priorité extraordinaire. Alors ce qui est intéressant dans l'étude que j'ai faite à partir de la Bible, c'est que les patriarches qui symbolisent ces différents mois de gestation sont sans femme, comme si le monde de la femme était exclu. Et à partir du 7e mois, celui qui préside à ce 7e mois prend deux femmes. Et voilà que le féminin réapparaît. Et nous sommes aujourd'hui à l'heure où ce monde du féminin réapparaît, mais il réapparaît malheureusement trop en réactionnel, en outrance, et je ne suis pas du tout d'accord avec bien des choses qui se réclament du monde féminin, mais si véritablement le monde féminin retrouve sa véritable place, alors je crois que nous allons vers des jours très très importants, très beaux, parce que le féminin est lié justement, tout ce monde féminin intérieur est lié à tout ce potentiel divin qui est en nous.
Et alors, il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'ai envie de réagir. D'abord, vous parlez des religions, de la Bible, mais quand on vous écoute par ailleurs, vous passez un peu des dogmes. C'est pas très dogmatique, votre manière d'envisager la religion, elle est pas dogmatique. Et en plus, vous vous êtes intéressé à la Bible, mais aussi à la religion juive, mais aussi au plat d'Égypte, etc. Vous êtes vraiment intéressé à toutes les religions. Je sais pas pour le Coran, mais j'imagine aussi que vous êtes intéressé au Coran également.
Aussi.
Et ce que j'aimerais comprendre, avant qu'on aille sur le féminin, parce que évidemment ça m'intéresse et vous avez écrit un livre dessus, ce que j'aimerais comprendre, c'est quels sont les messages sortis des dogmes des différentes religions. J'ai l'impression que ça se réunit. Finalement, le message, il est quasiment un. Et quel est ce message ?
Le message essentiel, c'est que Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. L'homme est appelé à une déification. Et c'est tout le sens du christianisme. Le Christ s'incarne. Aujourd'hui, où les physiciens viennent nous conforter en nous disant qu'il n'y a plus de discontinuité entre la matière et l'esprit, ce n'est donc pas du tout une folie de penser que Dieu s'incarne pour que l'homme se déifie. Donc Dieu s'incarne pour venir écraser la tête diabolique du Satan qui prend la maîtrise du monde pour libérer justement le monde et faire éclore la divinité de l'homme dont la semence est en lui.
Et en fait, ce que vous dites quelque part, c'est de dire qu'il ne faut pas prendre un Dieu à l'extérieur comme c'est le cas avec Jésus-Christ ou Mohamed ou peu importe, mais vraiment de le réintégrer à l'intérieur, de se dire en fait...
Je crois qu'il faut faire une très grande distinction entre le Christ historique incarné et puis le Christ Dieu que nous portons tous dans toutes nos traditions, en sous d'autres noms. Mais c'est la présence divine en nous, voyez-vous.
Et alors, je voulais revenir, parce que vous parlez, donc dans ce grand retournement que nous sommes en train de traverser, vous parlez beaucoup de féminin, vous avez écrit un livre maintenant au XXe siècle
sur le féminin de l'être.
Complètement, le féminin de l'être. Pour vous, c'est quoi le féminin chez un être humain ?
Voilà, c'est ce que je vous ai dit trop rapidement tout à l'heure. Le féminin, avant d'être la femme par rapport à l'homme, c'est ce que nous appelons aujourd'hui l'inconscient. Quand Adam est invité par Dieu à épouser son Isha, ce n'est pas l'homme qui doit épouser la femme, ça ne viendra que plus tard, en conséquence d'un retour à l'animal. Mais dans l'ontologie de l'homme, dans son être véritablement profond, nous sommes tous des Adams et nous avons à épouser cet autre côté de nous. C'est-à-dire que nous avons à pénétrer cet inconscient, nommer toutes les bestioles qui s'amusent à prendre notre place dedans, voyez-vous. Je vais vous donner un exemple. Je suis en colère contre quelqu'un qui m'apporte quelque chose de vraiment difficile à accepter. Qui est-ce qui est en colère ? C'est Annick ou bien c'est un animal à l'intérieur d'elle qui est atteint par ce qui vient de se passer ? Alors, mon travail est de me calmer, de ne pas être dans le réactionnel, d'aller chercher l'animal qui a été blessé, de le prendre en main, de l'empêcher d'être dans le réactionnel, dans la violence. Et c'est cette même violence de l'animal, et c'est ça la loi fondamentale que l'on découvre dans la Bible, c'est que c'est cette même violence qui est alors saisie par le monde divin et qui est transformée en information. C'est l'énergie de l'animal qui devient de l'information. Et c'est ainsi que nous construisons en nous l'arbre de la connaissance, dont nous sommes appelés à devenir le fruit. Aujourd'hui, où nous sommes des êtres qui avons oublié tout cela, où nous sommes restés dans l'état animal, nous avons développé une intelligence folle, nous construisons l'arbre de la connaissance par la voie extérieure, nous atteignons au fruit de l'arbre de la connaissance data, nous mangeons le fruit de l'arbre de la connaissance, nous reconduisons absolument le mythe, voyez-vous, et nous risquons de retourner à la case départ comme c'est dans le mythe, au lieu au contraire de faire appel à la croissance de l'arbre de la connaissance en nous pour que nous puissions être à la hauteur de l'arbre de la connaissance à l'extérieur et savoir comment en user. Et là, ça change tout. Est-ce que, je ne sais pas si je me fais comprendre.
Si, mais alors, une question que je vais poser à la thérapeute que vous êtes aussi, c'est...
J'ai été.
Que vous êtes,
mais... Mais il y a très longtemps que j'ai arrêté, parce que je ne pouvais plus tout faire. Je ne pouvais plus et faire ma recherche, écrire et puis en même temps être thérapeute.
Bien sûr, mais la question qu'on se pose et que moi je me pose quand je vous entends, je me dis, oui, me reconnecter à mon inconscient, génial, mais comment je fais ça? C'est-à-dire comment je reconnecte? Et comment, moi j'ai l'impression, on en parlait un tout petit peu avant, qu'il y a besoin d'un rééquilibrage entre masculin et féminin. Donc là, c'est ce que vous disiez avec le système moi.
Le masculin, par exemple, en vous, c'est, vous qui êtes un homme, c'est plus facile à se concevoir. Pour moi, ce côté masculin, viril plus exactement, si vous voulez, c'est être capable de ne plus être dans le réactionnel. Et d'aller voir quel est l'animal qui est éveillé dans telle circonstance. Vous voyez la différence. Par exemple, je me trouve devant une situation difficile, j'ai peur. Qui est-ce qui a peur en moi? Et je vais chercher l'animal qui a peur. C'est ça, descendre dans son inconscient, vous voyez? Voilà. Et c'est travailler avec cet animal-là pour qu'il donne son information. Et c'est un travail divino-humain à ce moment-là. C'est ce que j'ai essayé de vous dire. C'est ça, le travail de mâle, si vous voulez. Adam a créé mâle et femelle. Ça n'a rien à voir au départ avec monsieur et madame. Ça, c'est d'ordre animal, monsieur et madame. Mais le texte biblique, et ça a toujours été compris comme ça malheureusement, alors que le texte biblique veut dire que tout être humain est capable de pénétrer, de faire œuvre mâle, sans féminin intérieur, pour aller débusquer toutes ces énergies potentielles qui sont là, qui sont des énergies animales d'une très grande richesse, mais qui risquent de déployer leur violence pour détruire, si on les laisse aller dans le réactionnel et si on leur donne le pouvoir, ou qui au contraire peuvent apporter leur richesse dans l'information quand l'énergie devient de l'information.
Et alors quand vous dites ça, ce qui me fait penser à cette peur dans laquelle beaucoup de personnes sont parce qu'elles sont dans le désarroi, perdues. On voit un peu partout la montée des extrémismes, c'est-à-dire de l'extrême droite en France, mais on a vu au Brésil Bolsonaro, on a vu Trump aux États-Unis. C'est l'expression de cette peur et de ce masculin qui refuse, c'est ça, de se connecter.
Qui ne sait même pas. On ne peut pas dire qu'il refuse, il n'a jamais été informé de ça. Jamais on ne nous a enseigné ça, justement. Je ne sais pas si vous vous
rendez compte. Si, je me rends bien compte.
Vous comprenez? Donc, évidemment, toute cette peur, parce que c'est la peur qui règne aujourd'hui, c'est la peur de manquer. C'est la peur de manquer de pain, c'est la peur de manquer de se vêtir, c'est la peur de manquer d'un toit, etc. Pourquoi? Parce qu'on attend tout des services sociaux. Parce qu'on attend tout du monde extérieur. Alors que moi ici, je n'ai plus peur parce que je me remets entièrement à Dieu. Et puis quand j'ai besoin de quelque chose, l'événement arrive qui me comble. Il y a un retournement total à faire.
Et est-ce que vous pensez que ce retournement peut se faire ou va se faire, même si vous ne voyez pas dans l'avenir, sans chaos? Est-ce que le chaos est un passage obligatoire ou est-ce que c'est un passage nécessaire?
Je crois que c'est un passage un peu obligatoire. Chacun dans sa vie peut éventuellement le connaître plus ou moins, mais dans le collectif, je ne pense pas qu'on puisse éviter cette période de chaos. Je ne le crois pas. C'est très douloureux à vivre, c'est très difficile à vivre. Chacun, comme quand on a la grâce, parce que c'est une grande grâce de comprendre ces choses-là, essaye de faire dans sa mesure pour alerter les gens, leur dire « mais n'ayez pas peur, c'est normal, nous vivons quelque chose qui est au contraire essentiel ». Moi, c'est ce que j'essaye de dire, d'écrire Maintenant, je le dis beaucoup moins parce que je suis très âgée et que je n'ai plus la force de le faire. Mais j'ai encore écrit ce dernier livre à 98 ans. Alors donc,
ce qui est quand même admirable.
Je fais ce que je peux.
C'est admirable.
Voilà. Pour le dire, n'ayez pas peur, c'est dans les choses normales. Mais c'est à condition de se retourner et d'attendre tout d'un Dieu d'amour. D'un Dieu d'amour. Les Hébreux, quand ils ont quitté l'esclavage, il faut prendre l'exemple de la Bible, quand les Hébreux ont quitté l'esclavage et sont arrivés dans la traversée du désert, c'est un désert, la terre n'apporte plus rien. Dieu envoie symboliquement la manne et l'écaille, c'est le symbole du service divin, je dirais, et qui vient au secours de tous ces êtres-là.
Et d'ailleurs, vous parlez de puissance de l'amour. Je sais que vous avez une histoire personnelle autour du courage et de la puissance de l'amour. Est-ce que vous pourriez nous la raconter ?
Oui. C'est intéressant que vous me parliez de ça alors que je viens de recevoir une revue qui ne parle justement que du courage. Et ça m'agace. Parce que justement, le courage est une vertu superbe, magnifique, mais tensionnelle. Et comme à chaque fois qu'il y a tension, il y a un moment rupture. Et le courage risque de nous laisser des lendemains très très déconcertants, parce que ce n'est pas cela la réponse au danger. La réponse au danger n'est que dans l'amour. Que dans l'amour. Alors, vous faites allusion à quelque chose que j'ai quelquefois raconté, en effet. Je me promenais il y a plus de 20 ans le long de la Loire, et puis je vois arriver un homme avec un couteau à la main. J'étais dans la prière. J'étais partie prier. La prière du nom de Jésus, vous connaissez peut-être ça chez les orthodoxes, et je priais donc dans cette prière. Lorsque j'ai vu arriver devant moi cet homme, je n'ai pas eu peur. J'ai eu une grâce très grande. J'ai eu infiniment pitié, compassion pour cet homme qui devait être désespéré pour en arriver là. Il m'a mise par terre. Il s'est agenouillé devant moi, le couteau à la main. Et je l'ai regardé avec infiniment d'amour, sans pousser le moindre cri. J'étais dans la prière. Mais c'est une grâce que j'ai eue, une immense grâce. J'allais presque dire que j'y suis pas pour grand-chose. Je me suis trouvée investie d'une présence qui a regardé cet homme avec amour. Et il a été déconcerté. Je lui ai demandé son nom pour pouvoir prier pour lui, mais il a cru que c'était pour le dénoncer, alors il n'a pas voulu me le dire. Mais chose très intéressante, à ce moment-là, il m'a donné son couteau. Mais il ne savait pas que le couteau était le symbole du nom divin. Voilà, le symbole du nom divin que nous sommes tous appelés à devenir. Parce que dans la mesure où nous allons vers notre déification, nous devenons notre nom. Vous n'êtes connu que par votre prénom.
Bien sûr.
Pourquoi ? Parce que nous devons devenir notre nom. Et c'est lorsque nous deviendrons notre nom, qu'est le nom divin pour nous tous, alors seulement à ce moment-là, nous allons vers notre Dieu et nous sommes épousés de notre Dieu. Donc, me donner son couteau, c'était me répondre, c'était me donner son nom, mais son vrai nom, pas le prénom. Mais il ne le savait pas.
Bien sûr.
Et je le regardais avec tendresse et à un moment, il m'a redemandé le couteau. Et je m'entends encore lui dire, est-ce que je peux vraiment vous le redonner ? Il m'a dit oui, je lui ai donné. Il s'est levé, il est parti.
C'est incroyable cette histoire.
Voilà, ça a été une histoire d'amour incroyable. Il m'est arrivé l'autre jour une histoire tout à fait semblable, non pas à moi, mais à une jeune femme qui m'a écrit pour me dire ceci. Elle était dans une rave partie, à la suite de laquelle elle est emmenée par un gars qui elle se retrouve avec le couteau sous la gorge et prête à être violée. Et tout à coup, elle saisit cet homme par le cou, l'embrasse, lui montre un amour fou qui vient du cœur, il est complètement décontenancé, il jette là son couteau et il s'en va. Voilà, c'est un peu la même chose.
Oui, complètement, c'est fou.
Alors, ce que je veux vous dire, c'est que nous ne connaissons pas nos réserves incroyables d'amour. Et lorsque nous sommes, j'allais dire branchés, mais le mot n'est pas bon, lorsque nous sommes, je perds mes mots, moi, maintenant, la vieille dame que je suis.
Je me trouve très, très, très forte.
Non, mais je ne dis pas ça pour avoir des compliments. Très sincèrement, je perds des mots. Et je sais, lorsque nous sommes beaucoup plus liés, unis au Seigneur de notre être, que nous ne le savons. Il ne peut pas agir parce que nous ne faisons pas appel à lui. Quand nous faisons appel à lui, il est là. Et il est là et il est capable d'un amour infini. Et il est capable de transformer toute situation. Mais toute situation. Donc nous n'avons pas à avoir peur. C'est pour ça que le courage, c'est très bien, c'est une vertu d'animal qui rencontre des dangers. Donc il déploie tout à fait son courage et je ne peux qu'applaudir à ça. Mais je dis que ce n'est pas une vertu d'homme. C'est une vertu d'animal, ce n'est pas une vertu d'homme. L'homme au sens vrai du terme qui est divin, c'est l'amour.
Et donc dans ce passage au septième mois, on va quitter c'est ça en fait ce que vous expliquez quelque part.
On va quitter, alors est-ce brutalement ou est-ce peu à peu, je ne peux pas vous dire comment ça va se passer.
Bien sûr.
Mais on va quitter et on va entrer dans cette connaissance de ce Dieu intérieur qui nous attend et qui n'est qu'amour, qui est loin de tout jugement, de toute condamnation, alors qu'on nous a appris un tas de bêtises.
Et d'ailleurs, vous parlez de horizontalité et de verticalité.
Voilà.
J'aimerais que vous m'en parliez un petit peu, que vous nous en parliez un petit peu.
Vous savez qu'il y a des travaux qui ont été faits par une femme qui s'appelle Anne d'Ambricourt-Malassé, qui est archéologue, anthropologue, et qui a démontré que l'homme ne s'était pas verticalisé sortant de l'animal par une influence des événements extérieurs, mais parce qu'il avait une information intérieure en lui qui faisait que, peu à peu, toute l'ossification s'est développée. Et c'est ainsi, en particulier l'étude qu'elle a faite du sphénoïde en arrière de la tête, et c'est ainsi que, peu à peu, l'homme a trouvé sa verticalité, ce qui lui a libéré la parole, libéré les bras, libérer la parole, donc, ça a été quelque chose, une acquisition fantastique pour l'homme. Alors, de même que ce fœtus a reçu cette information lui permettant peu à peu de se verticaliser dans son corps physique, je dis qu'il a reçu aussi une information lui permettant de se verticaliser dans un corps plus subtil, beaucoup plus subtil, et qu'à l'heure actuelle, c'est ça qui est en train de se faire. Nous obéissons à une information intérieure qui correspond à celle qui se développe chez le fœtus à partir du septième mois. Et comme nous sommes dans notre septième mois de grossesse cosmique intra-utérine du cosmos, eh bien, nous recevons cette information et nous sommes en train de nous verticaliser. Nous ne sommes plus dans l'horizontalité où moins 1 exclut le 1, nous sommes dans cette horizontalité où moins 1 et plus 1 s'accordent pour faire un troisième terme à un autre niveau du réel. Et cet autre niveau du réel trouvera son opposition, qui trouvera sa solution dans encore un autre niveau du réel. Et c'est ainsi que nous sommes appelés à monter une échelle qui nous conduit vers notre Dieu. Vers ce Dieu que nous sommes.
Et alors dans cette image de monter une échelle, donc qui va vers le ciel, par définition, moi j'ai la sensation, on parle beaucoup d'écologie, qu'on a besoin de retrouver des racines. Est-ce que ça ne s'oppose pas, le fait de vouloir se reconnecter, de se réancrer dans la Terre, et en même temps de vouloir aller vers le ciel ?
Moi je ne crois pas qu'il y ait opposition, il y a complémentarité. D'abord, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Mais malheureusement. En soi, ça n'est pas... Là encore, vous êtes dans le dualisme. Mm-hmm. Vous comprenez ? Là encore, vous êtes dans le dualisme. Les pôles terre et ciel ne s'opposent pas. Ils s'accordent pour un troisième terme. Et je pense que la terre nouvelle sur laquelle nous allons aborder, contient ces deux pôles réunis.
C'est hyper intéressant parce que c'est tellement... vous ne vous rendez peut-être pas compte parce que ça fait tellement d'années que vous évoluez dans ces pensées que c'est... Mais c'est très différent de ce qu'on entend par ailleurs.
Mais je sais bien. C'est pour ça que ce très beau journal qui parle de courage d'un bout à l'autre est absolument admirable mais ne dit pas l'essentiel.
Et c'est ça. Exactement. Exactement. Il y a plusieurs choses dont je voudrais vous parler. Il y a aussi cette notion très attachée à cette société individualiste qui est la liberté. La liberté de faire ci, de faire ça. Et en particulier, si je reprends Descartes et le modernisme, il y a eu vraiment cette idée de séparer les choses, séparer d'être dans l'analyse, donc séparer les pensées pour pouvoir tout expliquer. Et ne pas être dans cette vision très englobante, finalement. Ça, c'est vraiment l'ouvrage de Descartes, finalement, et tout ce qu'on appelle le modernisme aujourd'hui. Et j'ai la sensation qu'on est en train de passer de ce modernisme à une forme de post-modernisme, c'est-à-dire à une société où on était très dans l'analyse, à une société qui est beaucoup plus englobante, où on regarde l'ensemble plutôt que de regarder chacun des sujets. Mais dans cette société moderne, il y a aussi cette notion d'individualisme et donc de liberté. Et j'aimerais bien que vous me parliez de liberté et de libre arbitre. Et vous en faites une différence assez forte entre les deux, il me semble.
Lorsque Pilate a posé la question au Christ, qu'est-ce que la liberté ? Le Christ est resté silencieux, mais il est monté sur la croix. Ce qui veut dire que c'est dans des morts et résurrections intérieures, pas forcément la mort physique, j'entends, des morts et des résurrections, c'est-à-dire sortir de notre rationalité, comme je viens de vous le dire, moins un qu'il ne va plus, éliminer plus un, mais qui va passer à une autre. C'est ça la crucifixion. On va être crucifié à ce niveau-là pour renaître à un niveau supérieur. La liberté, elle est une conquête continuelle d'un niveau supérieur. Voilà. Le libre arbitre, c'est le petit animal en nous qui va voir ce qu'il préfère. Mais ça ne va pas très loin. Et la plupart du temps, c'est très égoïste ou ça s'est retombé un peu catastrophique. Vous voyez, il y a une très, très grande différence. On est en train de tout confondre. Moi, quand j'entends parler de liberté là, à l'heure actuelle à la télévision, je hurle. Personne ne m'entend, malheureusement.
Mais si, on vous entend, puisque vous êtes là. Parce qu'en fait, on parle de libre arbitre beaucoup plus que de liberté.
La liberté, c'est tout à fait autre chose. La liberté... C'est une obéissance aux lois divines. Alors, ça a l'air contradictoire, mais les lois divines libèrent.
Comment elles libèrent ?
Les lois divines libèrent. Nous avons parlé de la connaissance. Mmh. La connaissance acquise par la voie extérieure emprisonne. La connaissance acquise par la voie intérieure libère. Par la voie intérieure. Ça change tout. Lorsque vous construisez une maison, il y a un mur de soutènement. Si ce mur de soutènement, vous le détruisez, il ne faut pas vous étonner que la maison s'écroule.
Bien sûr.
Le mur de soutènement, ce sont les lois divines. Les cloisons, ce sont les lois du monde. Vous pouvez abattre les cloisons. Bon, vous en subirez les conséquences, mais ça n'ira pas loin. À l'heure actuelle, nous passons notre temps à détruire les murs de soutènement. Que ce soit en médecine, que ce soit en d'autres matières, que ce soit en sociologie, que ce soit... C'est terrible. C'est terrible.
Et d'ailleurs, parce que vous parlez de médecine, un des murs de soudainement qu'on essaye de briser, c'est celui de la mort, qui est la peur sans doute ultime. J'aimerais que vous me parliez de la mort, parce que, évidemment, elle fait partie de la vie, mais j'aimerais bien que vous m'en parliez un petit peu, de cette peur de la mort et de l'erreur que l'humain fait.
La mort est toujours suivie de résurrection. C'est une naissance à un autre niveau. Mort et naissance sont jumelles. C'est donc aberrant d'avoir peur de la mort. Et à l'heure actuelle où on est en train d'essayer d'éradiquer la mort, on est en train de toucher à l'arbre de vie à l'intérieur de l'homme qui est symbolisé par la moelle épinière, etc. Enfin, tout ce trafic qu'on fait dans le cerveau. Et c'est écrit en toutes lettres dans le troisième chapitre de la Genèse. Voici, l'Adam a pris de l'arbre de la connaissance. Bon. Maintenant, empêchons-le de prendre de l'arbre de vie, de peur qu'il ne vive continuellement dans les temps. Et si la vie continue continuellement dans les temps, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que va devenir la vie? Mais ça va être l'horreur, mais l'horreur. Si les gens âgés ne partent pas, bon, moi je suis à la veille de partir, bon, donc je ne peux pas vivre sans envisager cela avec calme, amour, abandon total. Ou sans ça, c'est navrant d'être arrivé à mon âge sans appréhender. Bon, quand le moment exact va venir, est-ce que je vais vous dire le même discours? Je ne peux pas le prétendre. Mais je sais que dans la préparation, en tout cas, je suis dans une paix profonde.
Et ça, je trouve que c'est un beau message parce que j'ai la sensation qu'on fait beaucoup de choses par peur de la mort.
Mais la peur, toujours, la peur de tout. On a peur de tout. C'est bon, la solution n'est pas dans le contraire de, mais dans le dépassement de.
Et en fait, pour dépasser la mort, il faut comprendre que c'est une résurrection. Et
que c'est juste une naissance. Que c'est une naissance.
C'est hyper intéressant. Dans toutes ces réflexions que vous avez menées pendant ces longues années, est-ce qu'il vous est arrivé aussi de faire des erreurs, peut-être des erreurs de jugement ou des erreurs tout simplement? Je serais hyper intéressé de comprendre quelles sont ces erreurs, s'il y en a, et comment vous avez réajusté potentiellement.
Il faut distinguer les erreurs de ma vie.
Bien sûr.
Avec les erreurs de mon travail.
Bien sûr, c'est à ça que je fais référence.
Alors, les erreurs de ma vie, j'en ai fait beaucoup, mon pauvre.
J'imagine.
Hélas. Les erreurs de mon travail, je vais vous dire, je ne crois pas en avoir fait beaucoup parce que ce n'est pas moi qui travaille. Moi, je suis un canal par lequel je reçois quelque chose. Combien de fois je me suis vu écrire des choses que je ne savais pas?
Ça, je trouve ça incroyable que vous disiez.
Donc,
ça.
Je ne suis qu'un canal. Et là, je ne crois pas qu'il y ait d'erreur. Je crois que j'ai la grâce, l'immense grâce d'être branché à une voix divine, authentique, qui arrive à un moment voulu dans notre monde pour lever le voile, enlever toutes ces malentendus, ces mal traduits. On a traduit les textes autant qu'on a pu les comprendre à ce moment-là. Vous voyez? Et puis, il faut bien dire aussi que les premiers pères de l'Église ont compris beaucoup de choses, qu'ils ont eu l'ordre de taire. Moi, j'entends encore Maxime le Confesseur, au 7e siècle. Je donne souvent cet exemple. Il a un traité sur le mal qui est très classique, très intéressant. Et il termine en disant, mais il y a des mystiques qui voient tout à fait autre chose. Pour l'instant, nous gardons le silence. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit de dire. Alors, ils ont pris les gens pour des idiots, et résultat, eh bien, la connaissance s'est perdue. Alors, on a fait l'Église, et l'Église, encore une fois, non pas l'Église du Christ, mais l'Église qu'ont fait les hommes, est tombée dans un infantilisme absolument navrant.
Ça m'intéresse aussi que vous parliez de l'infantilisme des religions, mais l'infantilisme de la société en général, parce que on parle beaucoup de ça, en particulier sur la gestion de la crise sanitaire en ce moment, de l'infantilisation des êtres humains. En quoi la religion a infantilisé les êtres humains?
Sur le plan, attendez, d'une façon plus précise.
Pardon.
Parce que là, je viens de le montrer. Quand elle l'entretient dans une simple morale,
bien sûr.
C'est infantilisé.
Complètement. Non, c'était ma question d'ailleurs, et je m'attendais à ce que vous précisiez, mais ça me va très bien comme réponse.
Parce que la morale, elle obéit à une notion bien définie, à savoir le bien et le mal.
Mmh.
À partir du moment où on a traduit l'arbre de la connaissance comme étant celui du bien et du mal, on est dans l'erreur.
Oui, parce qu'on est dans la dualité.
L'arbre de la connaissance est celui de ce qui est accompli et de ce qui n'est pas encore accompli. C'est-à-dire des énergies potentielles que nous portons, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont travaillées, qui sont devenues de l'information, et puis celles qui sont encore à l'état potentiel. C'est ça l'arbre de la connaissance. Vous voyez, ça change tout. Ce n'est pas celui du bien et du mal. Dieu ne crée pas le mal. Il n'y a pas le mal n'a pas d'ontologie.
Et dans ce cheminement, et à ce moment-là de la vie humaine, de la société humaine, vous pensez qu'on est nombreux, qu'il y a de nombreuses personnes qui sont dans ce mouvement? Moi, j'ai la sensation, vraiment, de voir en ce moment la société humaine se diviser quasiment en deux, alors sans doute plus, mais avec des gens qui vont dans la voie que vous décrivez, dans ce développement du féminin, dans la recherche de cette puissance intérieure, et puis un monde préexistant du XXe siècle et de tous les siècles précédents, qui est très encore masculin, animal finalement.
Oui, c'est ça.
Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà dans ce mouvement versus ceux qui restent entre guillemets dans ce côté animal?
La plupart de l'humanité est encore dans cet état animal, mais le reste de l'humanité est en train de former le comment ça s'appelle quand on met dans le pain pour le faire lever?
Ah, la levure.
La levure, le levain.
Le levain. Ouais.
Et des gens qui travaillent dans le sens, je dis pas seulement avec mon travail, parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui parlent aussi dans le même sens, sont en train de former le levain, et il y a un moment où le levain va prendre la pâte.
Et ça, c'est cette période de transition qui peut connaître le chaos, ce à quoi vous faisiez référence.
On ne peut pas ne pas connaître le chaos. Le chaos est nécessaire.
Et c'est ce que vous disiez, enfin, ce que je vous ai entendu dire, c'est parce que vous compariez à la naissance, et donc dans la naissance, il y a accouchement, et dans l'accouchement, souvent, il y a douleur.
Voilà, le chaos, je crois qu'on ne peut pas l'éviter. Et puis, tout à coup, il y a la mutation. Une mutation qui se fait. Non pas la mort, mais une mutation. On aurait toujours dû traduire le mot mout en hébreu par le mot mort, et mutation et pas mort.
Oui, ça serait plus beau, effectivement. Et du coup, il faut... En fait, votre message, il est extrêmement optimiste, parce que même si il y a sans doute un chaos que l'on va devoir traverser, derrière, il y a...
Il va y avoir une prise de conscience collective magnifique. Bien sûr, c'est pas mon message, cher ami. C'est vraiment le message biblique. Moi, je me retire derrière ça. Hein. Bien sûr, ça passe par ma plume, je suis tout à fait d'accord. Mais il faut bien que le ciel s'incarne d'une façon enfin, je l'espère, en tout cas. J'espère être fidèle. Ça demande, évidemment, au vase... À ce relais de transmission, ça lui demande en effet de se purifier continuellement. C'est une grande exigence, je suis tout à fait d'accord. Mais ça n'est pas dramatique, surtout quand il y a cette joie, cet amour qui est là, infini, vous comprenez.
Complètement.
Moi, je suis dans la joie, mais dans une joie débordante.
C'est hyper beau. Ce podcast s'appelle Vlan, et donc je voudrais savoir à quoi vous voulez ouvrir et où. Vous n'êtes pas obligé, claquez la porte.
Attendez, redites-moi la question parce que je l'ai mal
comprise. Alors, je vous la redis. Je voudrais savoir à quoi vous voulez ouvrir et où claquer la porte. En fait, ouvrir la porte à une idée, à un concept.
Claquer la porte, je ne comprends pas très bien. Quelle porte ?
C'est pas une porte. C'est, quand on dit claquer la porte, c'est surtout... C'est une image, évidemment. C'est pour dire...
j'en ai assez de la vie, etc.
Pas j'en ai assez de la vie, non, mais peut-être claquer la porte à l'animal qui est en nous, ou ça peut être...
Ah, il ne s'agit pas de claquer la porte à l'animal, il s'agit de le prendre en main. Il s'agit de le nommer, la Bible le demande, c'est écrit dans la Bible, je n'invente rien. Adam est appelé à nommer les animaux, pas les animaux extérieurs, ce sont ces animaux intérieurs. À nommer les animaux pour construire son nom, c'est le nom dont je vous parlais tout à l'heure.
Alors si ce n'est pas ça, ça peut être claquer la porte, je ne sais pas, au courage, à la violence, ça peut être ouvrir la porte au féminin, ça peut être ouvrir la porte à plein de choses.
C'était... on n'est que dans l'ouverture des portes. Enfin,
c'est ça, en fait.
Il faut être dans l'ouverture. N'est-ce pas ? C'est pour ça que votre expression « claquer la porte », je ne comprenais pas très bien.
Je comprends votre réponse. Donc ouvrir la porte à globalement un peu tout.
C'est ouvrir au contraire.
D'accord, parfait. Voilà. Merci beaucoup Annick.
Alors écoutez, vous êtes merveilleux, vous m'avez posé des belles questions.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg From Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt !